m'a dit, monsieur, vous n'avez rien. Ok ? Il m'a dit, pour un homme qui est soigné pour le diabète depuis plus de 30 années, vous avez des artères magnifiques. Il n'y a rien. Vous allez pouvoir repartir chez vous tranquille. Il m'a dit, vous avez certainement eu de bons traitements jusqu'à ce jour. Vous avez été bien soigné. Alors je lui dis oui. Puis je me suis permis d'ajouter que j'étais sérieux. Bah oui, fallait lui dire que je fais quand même attention. Et il m'a dit, vous n'avez rien. Vous êtes même un cas d'école pour moi, pour nous, parce que tout est en ordre, alors qu'il pourrait y avoir des séquelles. Alors je voulais en témoigner parce que mettre l'accent sur ce don de connaissance qu'a exercé notre ami, notre frère, en disant, Jean-Louis, tu n'as rien. Je me suis dit, mais il était au courant de rien, et voilà qu'il me dit cette parole, Jean-Louis, tu n'as rien. Béni soit Dieu. Nous allons faire notre lecture, si vous voulez, dans Luc. C'est la suite de la fois dernière où je suis intervenu. J'ai proposé à Michel d'intervenir ce matin pour le soulager. Non pas que je veuille absolument être là. Non, non. Mais c'est pour soulager Michel parce que je sais qu'il est très sollicité en ce moment et il a accueilli avec joie cette proposition. Donc Luc, chapitre 2, versets 25 à 35. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. » Nous avions retenu ensemble ces paroles de Siméon au verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut », et de souligner l'acuité spirituelle exceptionnelle et enviable de Siméon, celle de discerner dans le petit bébé qu'il tient dans ses bras le sauveur d'Israël et par extension le sauveur du monde. Siméon, à qui il avait été révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Maintenant, Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. J'ai utilisé ici la version de M. Kuen. Alors nous avions convenu ensemble qu'il n'était nul besoin de consulter un spécialiste, en l'occurrence un ophtalmologiste. Jésus, médecin des âmes et des corps, faut le dire, Jésus guérit aujourd'hui encore, alléluia, ne nous dirigera pas, ne vous dirigera pas vers un confrère, parce qu'il a lui-même cette capacité à nous examiner. Jésus possède la science et la connaissance, et nous avions relevé qu'une version disait d'Ésaïe 53:3, lorsqu'il est dit habitué à la souffrance, qu'il était expert en maladie, c'est-à-dire qu'il était vraiment connaisseur. Jésus a la connaissance de toutes choses. C'est pourquoi il peut nous guérir de tous nos maux. Vous le croyez ? Oh, j'ai moins un amen plus. Amen. Voilà, il peut nous guérir de tous nos maux, quels qu'ils soient. Les producteurs d'émissions médicales télévisées feraient bien d'inviter Jésus sur leur plateau pour dire ce qu'il a à nous dire. Il y ferait un tabac. À 12 ans, Jésus n'était-il pas celui qui étonnait dans le temple les docteurs de la loi ? Il est dit de lui, « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Et nous avons le bonheur, le privilège de connaître ce Jésus. Alléluia ! Nous avons ce bonheur. De plus, Jésus a le collyre approprié pour soigner et guérir les maux inhérents à la vue spirituelle des croyants. Ne nous presse-t-il pas d'acheter un collyre pour oindre nos yeux afin que nous voyions clair ? Ne sommes-nous pas appelés à marcher dans ce monde comme voyant Dieu ? C'est notre marche. Nous sommes appelés à marcher dans ce monde comme voyant Dieu. Or, j'ai beau ouvrir les yeux, je ne vois pas Dieu au milieu de nous ce matin. Pas plus que lorsque je vais sortir tout à l'heure. Je ne vais pas de mes yeux physiques voir Dieu, mais mes yeux spirituels peuvent le voir. Il s'agit bien là d'une capacité spirituelle qui nous est donnée à la conversion, à l'image de nos cinq sens. Ensemble, nous avions vu aussi qu'une correction de la vue était nécessaire et nous mîmes en avant la parole de Dieu. Toute écriture, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Et nous en étions restés là, parce qu'il y avait une urgence. Alors Jean-Marc m'a fait comprendre qu'il fallait peut-être mettre un terme, il m'a laissé en suspens. Donc j'ai dit à Michel, j'ai quelques notes là que je peux reprendre et que je vais à nouveau travailler. Donc l'on reprend, si vous voulez bien, ce matin, notre consultation ophtalmologique. Est-il besoin de souligner que l'œil est l'organe de nos cinq sens qui est le plus en liaison avec le monde extérieur ? Et en transmet les données à l'homme intérieur. C'est l'organe en liaison avec le monde extérieur qui transmet les données à notre être intérieur. Et très souvent au cœur, qui est-il besoin de le rappeler, le siège de la volonté. Pour Jésus, c'est très clair, l'œil est la lampe du cœur, du corps, pardon. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps, traduisez aussi tout ton être, sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, versets 23 et 24. La victoire sur la tentation, la victoire sur la tentation commence par la maîtrise du regard. Jésus nous met en garde par cette parole difficile à entendre. Je le cite. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. C'est dur à entendre, hein ? Et de poursuivre avec la main. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Matthieu 5, 29. Nous sommes exhortés à veiller sur nous-mêmes. Alors, il y a des mots qu'il nous faut soigner. Je suis direct. Je vous dis quel est ce mal qu'il faut soigner avant toute chose. C'est le péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère et sont insatiables de péché. Je cite 2 Pierre 2,14 au sujet des hommes, hommes et femmes irrégénérés. Il y a des hommes qui ne peuvent regarder une femme sans la désirer. C'est une réalité au quotidien. Et vous savez que certains ne se contentent même pas de vous dévisager, mesdames, mais ils vous déshabillent du regard. Job disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job craignait de poser ses regards sur une femme autre que Madame Job. Job avait comme excuse que son épouse n'était pas une terrible. Hein. Si je le voyais en face, je lui dirais, Job, t'étais pas une terrible. Parce qu'elle s'est révélée, vous le savez, lorsqu'il était dans la maladie, au plus mal, il s'est révélé, comme une mauvaise conseillère. Lorsqu'elle lui dit « Maudit Dieu et meurs !» J'ai été gravement malade il y a une trentaine d'années. Je n'ai pas entendu dans la bouche d'Agnès de tels propos. Hein. Oh non, non, non. Non, non. Eh oui, Job dit, la femme de Job lui dit « Maudit Dieu et meurs !» Job a le souci de préserver son cœur de tout mal, conscient que par un seul regard, son cœur pouvait s'enflammer. Il se souvient du pacte qu'il a fait avec ses yeux. Frères et sœurs, sans aller jusqu'à l'adultère qui est chose facile aujourd'hui, ne nous arrive-t-il pas de pécher par adultère spirituel ? Affectionner une personne, un objet, une activité, un loisir, plus que Dieu, comme par exemple j'affectionnais le jazz, c'est mettre Dieu en second, c'est un adultère spirituel. Étant fiancé, j'aime le dire dans mon témoignage, Agnès a eu l'intelligence de ne pas me poser la question de savoir si je préférais cette musique, le jazz, à notre relation. Parce que je ne sais pas ce que je lui aurais répondu. Tellement j'étais à l'époque pris par cela. Au soir de ma conversion, lui, Dieu, d'une manière directe, m'a demandé clairement de faire le choix entre lui et cette musique. Alors, non pas que cette musique est mauvaise, hein, c'est un moyen d'expression qu'ont eu tout d'abord les Noirs et après les Blancs s'en sont emparés aussi. Et il y a de très bonnes choses. Mais c'était devenu pour moi un tout. C'était toute ma vie, c'était toute mon existence. Dieu m'a demandé clairement, de faire le choix entre lui et cette musique. Cette rupture était nécessaire et salutaire. Pour une passion, pour un loisir, pour une activité, certains font le choix de délaisser l'Église. C'est un adultère spirituel. Ces bien-aimés n'ont pas conscience qu'en délaissant les assemblées, c'est-à-dire ce rassemblement comme celui de ce matin, ils se privent de la bénédiction de Dieu et de la vie qui y est manifestée. Oh, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous en êtes conscient? Dieu, ce matin, nous accorde sa bénédiction et il manifeste dans ce lieu la vie, sa vie. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Nous ne devons pas nous conformer aux principes qui régissent notre monde. S'ils sont contraires, à la doctrine chrétienne et en opposition à la parole de Dieu. Et pour le savoir, il faut être bien éveillé ou réveillé. C'est ce que nous verrons. Dans le psaume 119, qui comporte 176 versets, je ne sais pas si c'est celui-là que vous avez décidé d'apprendre par cœur pour la semaine prochaine, mais il y a 176 versets. Hein. Alors, vous pouvez commencer dès cet après-midi. Psaume qui a trait à la parole de Dieu, le psalmiste, de dire « Tes commandements font mes délices, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi de l'intelligence pour que je vive », ce qui peut se traduire « Permets-moi que je les comprenne pour que je vive ». Je ne vois pas que cet homme conteste la parole de Dieu ou la discute pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. À Cuen, pour le passage de Romains 12:2, le traduit de cette manière, lorsqu'il nous est dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de ce monde, ne conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt transformer » et un peu plus loin d'ajouter « Afin de discerner ce que Dieu attend de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. » Voilà ce qu'une bonne vue spirituelle permet d'appréhender. Reconnaissons-le, vous et moi, nous sommes faillibles. Je suis faillible et j'accumule des failles, mais Dieu use de patience et de miséricorde envers chacun si nous avons péché. Le tout est de le lui confesser. Jésus est-il besoin de le rappeler? S'est fait connaître à nous, non pour nous juger, mais pour nous sauver. Il est présentement auprès du Père comme avocat des enfants de Dieu. Il plaide pour nous, pour chacun d'entre nous, jour et nuit, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Lorsque David commit adultère après avoir posé ses regards, ça commence par cela, sur la femme d'Uri le Hittite, David n'a pas été rejeté pour autant par Dieu, lui dont il est dit qu'il fut selon le cœur de Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, bien-aimé, si nous avons péché, si tu as péché, Dieu est prêt, non pas à te juger, mais à te faire grâce, parce qu'il est le Dieu du pardon. Amen. Dieu est le Dieu du pardon. J'ai en mémoire les termes d'une prophétie qui a été donnée par Juliette, dans ce lieu même, où Dieu parlait de la participation de l'église de Kevin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà plusieurs semaines, Dieu parlait de la participation de l'église de Kevin à son action. Il désirait de notre part la main d'association pour œuvrer dans cette région. Et qu'en conséquence, il faisait à plusieurs des dons spécifiques. Alors, où en êtes-vous avec cette promesse de don? Moi, j'y ai beaucoup pensé, j'y ai beaucoup réfléchi. Quel don avez-vous reçu? Siméon semble avoir ce don de connaissance pour avoir su discerner dans le bébé qu'il tient dans ses bras le sauveur d'Israël, le sauveur du monde. Oh, c'est un don qui est en vogue aujourd'hui dans les églises, hein, le don de connaissance. Soyons prudents, hein, très prudents, parce qu'il y en a qui se révèlent exacts, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils ne sont pas toujours inspirés. Agnès et moi, nous avons fait les frais de soi-disant don de connaissance par un jeune qui se prétendait avoir un ministère, et c'était plutôt catastrophique. Donc je dis... prudence. Mais je sais, pour le vérifier et pour en jouir, et c'est ce qui réjouit mon cœur, qu'au milieu de nous, les dons spirituels s'exercent avec vérité, et qu'ils sont authentiques, et qu'ils sont vérifiables et se vérifient. Alléluia. Merci au Seigneur pour les dons de l'Esprit. Vous savez, lorsque nous sommes retrouvés, j'allais dire à la rue, mais obligés de quitter là où nous étions, ma prière a été de dire au Seigneur Jésus que nous puissions trouver une église où les dons spirituels s'exercent, parce que c'est important d'entendre Dieu nous parler. C'est une richesse. C'est un privilège, mais cela nous place aussi devant nos responsabilités. Soyons des hommes faits nous nourrissant d'aliments solides. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je me garde de toute autre nourriture spirituelle. Il n'y a pas très longtemps, une amie avec qui nous marchions a voulu... me faire lire un court extrait du protévangile, je crois que c'est comme ça que ça se dit, de Jacques, que l'on trouve dans les livres apocryphes. C'est à vomir, quand on réalise la somme de mensonges qui s'y trouvent consignés en totale contradiction avec la vérité biblique. Si un jour j'ai les livres apocryphes dans ma main, je puis vous assurer que je ne vais pas le réouvrir. J'ai nullement envie de m'embarrasser de ces choses et de polluer mon cœur. La vérité, elle est là, dans les Écritures, les Saintes Écritures, que des hommes fidèles nous ont transmis. Alors si votre œil est irrité, si vous êtes avec un problème... aux yeux, le collyre du Seigneur est un antiseptique efficace. Oui, c'est un antiseptique efficace pour vous prévenir de tout mal. Jésus affirmait, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous lisons aussi dans Apocalypse 22, 11, que celui qui commet le mal, persiste dans ses injustices, que celui qui aime la saleté continue à se salir, mais que l'homme de bien persévère aussi dans ses bonnes actions. Ça, c'est pour nous, que l'homme de bien persévère dans ses bonnes actions. Et que celui qui s'est consacré à Dieu reste fidèle à cette consécration et continue à se sanctifier. Apocalypse 22, 11. J'ai lu ce passage pour vous dans la version d'Alfred Kuhn. Et Jésus de dire dans un autre passage, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Jésus veut nous prévenir de tout mal. Il veut nous éviter toute chute. Donc la convoitise des yeux, de nombreux mots nous guettent dans celui-ci. On peut faire la lecture dans Jean, chapitre 2, les versets 15, 16 et 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point les choses du monde. Oui, cela relève de la convoitise des yeux. Avoir à n'importe quel prix, c'est-à-dire posséder quand l'on ne possède pas. Envier ce que mon voisin a quand je n'ai pas. Cela est contraire à la parole de Dieu, cela est dangereux. Ce verset suivant m'a modéré en cela. Il me fut donné d'ailleurs par cet ami espagnol dont je vous ai parlé l'autre fois. La piété avec le contentement est une source de gain, sous-entendez de gain spirituel, mais je dirais tout court source de gain. Parce que Dieu bénit spirituellement ses enfants et il pourvoit à leurs besoins. Vous le croyez ? Moi, je crois que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins, de quelque ordre qu'ils soient. Il m'a été utile, ce verset, et m'a appris à attendre que Dieu nous donne plutôt que d'acquérir à tout prix. Savoir attendre. Alléluia. Nous pouvons témoigner que Dieu donne et qu'il est généreux. Mais il nous faut parfois attendre ce qui est contraire à l'esprit de notre société, dite société de consommation. Je désire, alors je prends. Il y en a qui servent aujourd'hui. Non. La convoitise des yeux est un mal dont Dieu veut nous mettre en garde et dont Dieu veut nous garder, car elle peut nous mener dans des voies de péché comme celle, nous disions tout à l'heure, convoiter la femme de son voisin. Autre mal qui peut nous affecter en tant qu'enfant de Dieu, c'est la somnolence. La somnolence. Il arrive que des membres dans nos églises soient endormis et font entendre un léger ronronnement. Celui de l'habitude, de la routine, du légalisme, de l'autosatisfaction. Les paupières de ces bien-aimés, savez-vous comment elles sont ? Ben, elles sont tout simplement à demi-closes, à demi-fermées, pour ne pas dire totalement fermées, et ils dorment. Quand l'on a les yeux fermés, l'on ne peut rien voir. La palissade, la palisse en aurait dit autant. L'on ne peut rien voir et l'on ne voit rien venir. La palissade étant l'affirmation d'une évidence niaise. si l'on marche de cette manière, c'est-à-dire à demi éveillé, à demi endormi, ne courons-nous pas le risque d'une chute ? Dans le récit de Gethsémané, on sait que Jésus fera le reproche à ses disciples de n'avoir pas su veiller une heure avec lui. Il s'éloigne de nouveau d'eux, alors que son combat devient plus intense, plus pénible. Il s'adresse à son père et dit « Mon père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et puis il revient de nouveau vers les disciples et il nous est dit que là, il les trouva endormis parce que leurs yeux s'étaient appesantis. Il est en train de leur acquérir un salut éternel et ils dorment. Salut, est-il besoin de le rappeler, mais j'ai plaisir à le faire, qu'il est étendu à tous les hommes. Alléluia. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle pour notre monde d'aujourd'hui. Et nous en sommes les dépositaires. Et notre devoir est d'aller vers les autres pour leur dire que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise de son esprit et que Jésus revient. Si je ne le fais pas, c'est une faille dans ma vie. Je dois m'en repentir et le confesser à Dieu. Salut étendu à tous les hommes. Et il nous arrive que nous ne sachions pas veiller. Il nous arrive de nous assoupir. Serions-nous plus forts que les disciples ? Demandons à Dieu de veiller, de nous tenir éveillés et capables de discerner, c'est-à-dire de voir, de discerner ce qui attenterait à notre intégrité de croyant, mettrait à mal notre foi au Seigneur Jésus. Si nous avons une bonne vue spirituelle n'est possible que si nos yeux sont en bonne santé. Cette faculté spirituelle permet de voir ce qui est invisible au commun des mortels. C'est là la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui malheureusement sont encore du monde. Je peux avoir de bons yeux, mais si je dispose d'un mauvais éclairage ou d'un éclairage défectueux, cela ne m'est guère utile. Outre le fait de fatiguer mes yeux, il y a le risque de chuter, d'où la nécessité d'être éclairé. Dans l'épître adressée aux chrétiens d'Éphèse, Paul demande à Dieu qu'il illumine les yeux de leur cœur, c'est-à-dire afin qu'ils aient une foi plus éclairée pour saisir toutes les richesses de Dieu qui se rattachent au salut et qu'ils viennent d'acquérir. Connaissez-vous toutes les richesses qui se rattachent au salut que Dieu vous a offert, donné gratuitement en Jésus-Christ. La capacité à porter leur regard plus en avant et de ne pas vivre au jour le jour, de pouvoir juger de chaque chose correctement afin d'ajuster leur conduite au quotidien. Il serait insensé de penser que tout va finir par s'arranger. Je ne sais pas si vous tournez le poste de votre radio ou ouvrez votre téléviseur, mais ça bouge partout. C'est assez impressionnant. Hein. Ce n'est pas seulement que dans notre pays. Mais ça, Dieu avait prévenu. Hein. Ce n'est pas seulement dans notre pays. C'est dans toute l'Europe. C'est au-delà. Ça bouge de partout. Si on y prête attention, c'est même affolant. Dieu veut que dans ces circonstances, nous ayons une vue éclairée, capable de porter notre regard plus loin, avoir un regard de foi et ne pas être insensé pour penser que tout va s'arranger. Ces événements à l'envi crient que Jésus revient. La volonté de Dieu est donc que nous ayons une vision juste et précise, plus large, afin de, aussi de ne pas le restreindre dans son action, action qu'il a le désir de mener à son terme. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une promesse que Dieu avait faite, celle de pourvoir plusieurs de dons spirituels. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Quand il parle, il faut écouter parce qu'il a toujours quelque chose à nous dire. C'est aussi cette acuité spirituelle qui nous permettra de comprendre en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle nous sommes appelés, que nous sachions quelle merveille nous sommes en droit d'attendre de la part de Dieu, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Pas aux voisins, l'héritage qu'il me réserve, parce que je lui appartiens. Que nous prenions conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. Éphésiens 2, versets 18 et 19. Avant de conclure, il est peut-être bien de mentionner le fait, et c'est peut-être le cas pour quelqu'un parmi nous, plusieurs parmi nous, qui connaissent l'épreuve, qui sont dans les larmes, dans la douleur. Il est peut-être bon de mentionner que la douleur peut obscurcir notre vue. Je cite Job encore. Alors qu'il vient de perdre ses filles, ses fils et ses filles, et tous ses biens, Job qui dit « Mon œil est obscurci par la douleur ». Littéralement, mes larmes m'empêchent de voir correctement. C'est ça que ça veut dire. La maladie, la séparation d'un être avec un être cher, la solitude, l'échec professionnel, l'échec familial, conjugal, peuvent obscurcir pour un temps notre perception des choses spirituelles. Bien-aimé, si vous êtes dans ce cas, si tu es dans ce cas, N'oublie pas que Jésus, lui, est toujours là, qu'il ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui se veut à nos côtés. Il est à notre disposition pour nous guérir s'il le faut, pour nous consoler si nous sommes dans les larmes, voire changer le mal en bien, comme Dieu le fera pour Job. Job avait connu la prospérité. Il avait des bétails importants, il avait des fils et des filles. Et voilà que tout lui est repris. Mais Dieu va à nouveau lui donner une nouvelle tranche de vie avec des fils et des filles dont il est dit au sujet des filles qu'il n'y avait pas d'aussi belle femme dans tout le pays. Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Alléluia. Moi, je crois à ce Dieu-là. Quand il fait les choses, quand il veut nous combler, il les fait de manière magnifique. Et ça a été dit dans un témoignage ce matin. Sachons nous attendre à Dieu. Sachons lui faire confiance. Job reçut de la part de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en reçut dans les premières années de sa vie. Et il mourut. Rassasié de jour. Il mourut âgé, rassasié de jour. Alors, je termine cette question que l'on peut se poser, que je vous pose. Vous attendez-vous à Dieu pour qu'il change vos vies ? Vous émerveille encore ? Parce qu'il n'a pas fini de nous émerveiller. C'est nous qui le limitons, mais lui veut nous émerveiller encore. C'est à ce Dieu-là que je crois. Dieu n'est pas à court de bénédictions. Retenons que par absence de clarté, de lumière, il peut être difficile, voire délicat, de se diriger, de s'orienter. même si nous avons des yeux en bonne santé, mais qu'avec de la lumière et une mauvaise vue, l'on tâtonne et l'on prend le risque de chuter. Jésus guérit de toutes ces cités, qu'elles soient partielles ou complètes, et je vous laisse deux versets pour terminer. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Et encore, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Elle est toujours là pour nous instruire, nous conseiller. Et je t'en remercie. Que nous puissions, comme le psalmiste, prendre plaisir à l'ouvrir et à faire de cette parole nos délices. Seigneur, apprends-nous à ne pas la discuter, apprends-nous à ne pas la contester, mais apprends-nous à l'aimer et à la mettre en pratique avec ta grâce. Merci de nous bénir et merci d'éclairer nos yeux pour voir toutes les richesses qui se rattachent au salut que Christ nous a acquis à la croix en donnant sa vie et en versant son sang. Amen.